Canada, c'était la reconnaissance de la culpabilité de la part de la ville. C'était de dire, Pierre Lacroix n'est pas mort parce qu'il a mal agi, il n'est pas mort parce que ses procédures n'étaient pas bonnes, il n'est pas mort parce qu'il a fait une manœuvre qu'il ne devait pas faire, il est mort parce que la ville n'a pas fourni l'équipement nécessaire à sa sécurité, tout simplement. Ça a été écrit noir sur blanc, c'est un décès qui était évitable. Alors, voilà pour cette situation-là. Si vous avez quelque chose à ajouter, 9-8-9-8-5. Si vous êtes pompier à la Ville de Montréal aussi, vous avez quelque chose à ajouter, écrivez-nous. Je sais que ça faisait longtemps que les pompiers tiraient la sonnette d'alarme sur ce type de bateau-là, spécifiquement. Ce qu'on attend pour une dernière nouvelle? Dernière nouvelle dont je veux vous parler. C'est dans la presse ce matin. Très intéressant. C'est donc un article du New York Times qu'on a repris dans la presse ce matin qui parle d'une situation qui fait un petit peu controverse dans les écoles secondaires aux États-Unis. Depuis la pandémie, vous savez, on a fourni des ordinateurs portables à plusieurs élèves pour faire l'école à la maison. Donc, ce sont des ordinateurs qui sont, entre guillemets, sous la gouverne des écoles. Ça appartient à l'école, mais on le fournit à l'élève. Et il y a quelque chose qu'on a mis en place à l'intérieur de ces ordinateurs portables-là. C'est le fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. On a, disons, censuré certains mots. On ne peut pas dire de la haine. On ne peut pas utiliser des mots précis qui auraient tendance à aller vers la violence ou quoi que ce soit. Et quand un jeune écrit ce type de mots-là, que ce soit par rapport à des menaces à autrui ou pour lui-même, il y a une sonnette d'alarme qui est sonnée, qui est tirée au niveau de l'école. Et l'école, donc, reçoit une alerte pour dire tel élève sur tel ordinateur a dit une phrase qui signifie qu'il veut se faire mal à lui-même ou qu'il veut faire mal à autrui, par exemple. Et à ce moment-là, l'école peut appeler la police pour envoyer la police chez le parent, chez l'élève, pour s'assurer que tout est bien. C'est arrivé à quelques reprises déjà. Par exemple, une élève qui disait à une autre amie sur l'ordinateur qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Il y a eu une alarme qui a été sonnée. L'école a appelé la police. La police s'est rendue chez les parents le soir même. Et effectivement, la jeune fille avait déjà commencé à consommer des pilules dans le but de mettre fin à ses jours. Ils ont pu la sauver à la dernière minute.
Ça, c'est incroyable.
Oui, c'est incroyable, mais l'envers de ça, le revers, en fait, de ça, c'est que parfois, les policiers se pointent chez la famille alors qu'il n'y avait pas rien de grave en tant que tel. C'est soit c'était des paroles de chansons qui avaient été relayées, soit c'était, je fais référence à un extrait d'un livre que j'ai lu il y a 2 ans. Donc, c'était pas du tout un cas qui nécessitait la présence de la police. Et la présence de la police traumatise certains élèves parce que là, ça se pointe à 10 heures le soir, l'élève dort, va le réveiller, il faut qu'on lui parle. Non, j'ai rien fait, c'était juste ça. Ah, OK, parfait, merci, bonsoir, on s'en va. Donc, il y a des parents qui trouvent que ça va beaucoup trop loin, que c'est d'empiéter sur la compétence des parents, que l'école puisse voir exactement ce qui se dit sur ces ordinateurs-là et d'envoyer la police dans ces cas-là. Mais il y a vraiment 2 écoles de pensée présentement qui s'affrontent. Il y a des parents qui sont contents que cet outil-là soit mis à la disposition, dont le parent de la jeune fille qui voulait vraiment mettre fin à ses jours. Ces parents-là ont dit, garde, puis honnêtement, la jeune fille, l'histoire, c'est triste parce que quelques années plus tard, elle a fini par mettre fin à ses jours, 2-3 ans plus tard. Mais la mère dit, si ça n'avait pas été de cette fois-là, elle serait morte beaucoup plus tôt probablement, puis on l'aurait perdue. On aurait perdu les 2-3 dernières années qu'on eut avec elle. On a pu essayer tout ce qu'on a fait. Elle a été hospitalisée en psychiatrie. On a eu des outils, évidemment, pour nous aider. Mais c'est grâce à cet outil-là qu'on a pu savoir à quel point notre fille était en détresse. Mais t'as d'autres parents qui disent, notre enfant va très bien, c'est pas de vos affaires ce qui se dit sur ces ordinateurs-là, puis d'envoyer la police à 11 heures le soir, ça n'a pas de bon sens. Alors, il y a plus de la moitié présentement des élèves aux États-Unis qui ont cet outil sur leur ordinateur portable. C'est beaucoup, ça fait beaucoup d'alertes qui sont sonnées à la fois, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça peut prévenir des situations dramatiques? Les écoles disent que oui. Les écoles disent même que les chiffres de suicide, entre autres, ont dramatiquement baissé depuis que cet outil-là est en place. Alors,
mais c'est des ordi qui appartiennent
à l'école. Exactement. Bon, c'est pas un ordinateur personnel.
Ça appartient à l'école.
Excuse-moi, Jérémy.
Non, mais je dis juste, ça appartient à l'école.
Exactement.
C'est leur droit, là.
Puis, moi, je lisais l'article ce matin, puis je me disais, c'était mon garçon qui est sauvé grâce à l'ordinateur. Puis, encore, tu sais, je vais aller plus loin. Tu sais, l'autre histoire de la petite fille où la police se pointe à la maison, puis finalement, elle n'a pas de pensée suicidaire. Ben, OK, je comprends que c'est traumatisant, quand même, il y a des gens qui ont pris la peine d'envoyer la police. Ouais. Je veux dire, ça fait partie aussi du cercle.
Exact. Mais l'autre point qui est soulevé par certains experts, c'est de dire ce que vous allez faire, c'est pousser l'élève à ne plus se confier. Il sait qu'il est observé sur son ordinateur portable, il sait que chaque mot va être pesé, il ne voudra plus parler à personne, il va se renfermer sur lui-même, puis voudra plus s'exprimer ni dire comment il pense. Ou il va le faire sur d'autres plateformes beaucoup plus obscures et beaucoup moins propices à ce que les autres puissent voir à quel point ça va
être facile. Sur son téléphone, j'imagine.
Exactement.
Ou il va le faire, en espérant avoir de l'aide aussi.
Voilà. Alors, à ma connaissance, c'est pas un outil qu'on a ici au Québec, à moins que vous me dites le contraire. Écrivez-nous 98985 si vous avez connaissance de ça. J'ose croire que ce sont les ordinateurs qui appartiennent à l'école. Il y a une certaine surveillance qui est faite de certains mots, là, que ce soit de la haine, de l'incitation à la haine, incitation à la violence. J'ose croire qu'il y a un outil quelconque qui est fait pour ça, mais il est peut-être moins sophistiqué que celui qu'on voit aux États-Unis, qui est mêlé à un robot d'intelligence artificielle qui va vraiment analyser chaque propos avant de décider d'envoyer la police, évidemment. Alors, écrivez-nous 98985. 7h34 minutes, on s'arrête pour la pause.
Daniel Lavoie et son spectacle 40e anniversaire. Tension, attention. Plus de 25 000 billets vendus. Dernière supplémentaire le 11 juin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Billets sur productionmartinleclerc.com.
Victime d'un accident de travail, de la route ou d'un acte criminel? Parlez-en à un avocat du cabinet M, expert dans les dossiers CNESST, SAC et IVAC. Le cabinet M s'occupera des procédures judiciaires et de toutes les démarches du début à la fin. Visitez lecabinetm.com.
L'épicerie est de l'autre bord, hein?
Je sais. Faut juste arrêter ici avant.
Chez Tanguay?
Oui, madame.
Du 3 au 18 décembre, avec tout achat de 1 250 $ et plus chez Tanguay, recevez une carte cadeau métro ou Super C de 150 à 1 000 $. Certaines conditions s'appliquent.
Les gros week-ends couche-tard présentent...
Les aventures de gros et gros Big.
Hey Big, qu'est-ce que tu fais avec tous ces sacs de chips-là?
Écoute ça, j'ai tout un programme. Le 24 et 25 chez mes parents, le 27 c'est la famille élargie, le 28 c'est les amis, puis le 31 gros party.
Viendrais-tu souper chez mon cousin le 29?
Aimes-tu les chips?
Non.
M'en amener pareil.
Du 10 décembre au 6 janvier, préparez-vous pour le temps des fêtes chez Couche-Tard. Payez le prix minimum sur les caisses de 30 canettes de bière Coors Light et Molson Canadian et faites-le plein de Lay's ou de Fritos qui sont à 2 pour 7,50. Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin.
Juste pour rire et groupe encore présente, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? L'histoire d'une famille québécoise pognée ben raide en tradition et modernité. Des dialogues hilarants, des acteurs grandioses et des sujets chauds. Rémi Girard a un mot pour décrire la pièce?
C'est plein de malaise, mais plein d'amour. C'est des sujets délicats, ça fait que ça grince un peu, mais ça rit énormément.
Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Présenté au Théâtre Lionel Groulx l'été prochain. Billets en vente au qu'est-ce-qu'on-a-fait-au-bon-dieu.com.
Est-ce que ça se commande, un gorille sur Uber Eats? Non, mais une guédille, ça oui. C'est bon, puis c'est pas mal mieux que de libérer 500 livres de muscles incontrôlables dans votre nouvelle cuisine. Surtout quand la livraison est à 0 $. Uber Eats, on livre presque, presque tout. Des conditions s'appliquent.
Envie de terminer l'année en beauté? Mazda vous offre 90 jours sans paiement mensuel au financement sur les Mazda CX-5 et CX-50 2024. Oui, 90 jours de bonheur et de liberté grâce aux 90 jours sans paiement mensuel pour vous aider à passer de belles fêtes. En plus, bénéficiez d'un taux à partir de 1,5% au financement jusqu'à 36 mois. Faites vite, des Mazda CX-5 et CX-50 2024 vous attendent dès maintenant. L'offre se termine le 31 décembre sur approbation de crédit. Des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Pour tout suivre en direct,
pour ne rien manquer lors de vos déplacements,
téléchargez l'application Cogeco Média. Cogeco Média.
98.5, même le week-end.
Au réseau Cogeco Média, vous écoutez même le week-end. De retour à Élisabeth Crête.
Et Stéphane Boucher est avec nous pour les manchettes. Salut Stéphane.
Allô.
D'abord, une attaque au poivre de Cayenne a paralysé une partie du métro de Montréal hier soir.
Oui, le service a été interrompu sur plusieurs lignes en raison donc d'un conflit qui a dégénéré. Deux groupes d'individus se sont affrontés. Ça s'est déroulé à 20h20 à la station Place des Arts et certains des belligérants ont utilisé du poivre de Cayenne lors de cet affrontement. On écoute Véronique Dubuc, porte-parole du SPVM.
Policiers, pompiers et ambulanciers ont été déployés sur les lieux. Les intervenants ont porté assistance aux personnes ayant des symptômes s'apparentant à une explosion à du gaz irritant. Il n'y a aucun blessé grave et aucun transport en centre hospitalier n'a été requis. L'endroit a été évacué et a été ventilé.
Aussi, Stéphane, un homme et une femme ont été victimes d'une agression armée cette nuit dans l'arrondissement Ville-Marie.
Oui, ils ont été impliqués dans un conflit avec un groupe d'individus vers 3h30 sur le boulevard René-Lévesque. L'homme de 26 ans a été blessé avec une arme tranchante alors que la femme a été frappée avec un objet contondant. On ne craint pas pour leur vie. Ce sont des blessures sérieuses. Des suspects sont détenus. Jean-Pierre Brabant, porte-parole du SPVM.
Trois hommes ont été arrêtés non loin des lieux de l'agression. Il s'agit de deux hommes âgés de 18 ans ainsi qu'un homme de 22 ans. Alors, les trois personnes ont été transportées dans un centre d'enquête où ils seront rencontrés par les enquêteurs au cours des prochaines heures.
Et finalement, ça c'est incroyable, la chaîne de télévision américaine ABC va devoir verser 15 millions de dollars à Donald Trump.
Ouais, en dédommagement pour mettre fin aux poursuites pour diffamation lancées par le président désigné Donald Trump après les propos tenus à l'antenne par un présentateur vedette de la chaîne. Alors, lors d'un entretien en mars avec une élue du Congrès américain, le journaliste George Stephanopoulos a affirmé que Donald Trump avait été trouvé responsable de viol. Or, il a bien été condamné dans cette procédure en 2023, mais pour agression sexuelle, ouais. Une nuance qui vaut à Donald Trump 15 millions de dollars.
Il faut savoir que George Stephanopoulos, c'est une sommité pour ABC. C'est un journaliste chevronné. Il a interviewé les plus grands. Il est fiable. C'est un excellent journaliste, mais il a utilisé le mot en anglais « rape », alors que le terme qui avait été utilisé dans la poursuite au civil, c'est « sexual abuse ».
C'est ça.
Essentiellement, c'est la différence entre viol et agression sexuelle, mais en termes légaux, aux États-Unis, il y a une grosse différence entre les deux, ou du moins, il y a une différence. Et donc, Donald Trump s'apprêtait à poursuivre pour diffamation. Alors, c'est un détail qui n'était pas un détail pour Donald Trump, et au sens de la loi aux États-Unis, effectivement, c'était pas un petit détail non plus, mais reste que sont obligés quand même de verser 15 millions de dollars pour éviter une poursuite qui pourrait coûter beaucoup plus cher, finalement. Alors, oui, c'est toute une histoire, celle-là. Merci beaucoup, Stéphane.
Les sports.
Jérémy Rainville.
Bon, j'ai devant moi ma feuille de manchette de vendredi où on dit qu'il y avait une défaite de 9-2 du Canadien face aux Pingouins. Là, on a dit, on va voir comment l'équipe va réagir face aux Jets de Winnipeg, parce que c'était le duel hier. Et honnêtement, on a quand même bien réagi, le Canadien qui s'incline par la marque de 4-2 face aux Jets de Winnipeg. Mais l'histoire du match, c'est que Lane Hudson a marqué enfin son premier but dans la Ligue nationale de hockey. C'est lui qui a ouvert la marque pour le Canadien. Lane Hudson qui avait quoi, 19 passes jusqu'à présent?
Oui, 19 passes.
Et là, maintenant, a un but et 19. Je pense, qui est une bonne chose pour Lane Hudson, qui est tout un joueur de hockey, soit dit en passant.
La réaction au banc hier.
Ah, tout le monde est heureux. Martin Saint-Louis jubilait derrière le banc. Puis c'était le fun de voir les gars parce que, écoute, il a frappé quoi, 3-4 poteaux. Il a eu des chances de marquer. Malheureusement, ça n'arrivait pas à entrer pour lui. Donc, il a son premier but. Mais l'histoire de ce match-là, c'est qu'encore une fois, le Canadien est copé de pénalités très, très coûteuses. Entre autres, Kirby Dach, en première période, c'est lui qui a permis aux Jets de Winnipeg d'égaliser la marque 1-1. Et par la suite, on est copé de 6 pénalités dans le match. Et ça devient difficile de prendre un certain momentum quand tu es copé de plusieurs pénalités. Et mine de rien, ce matin, tout en me réveillant un peu, je faisais mes manchettes. Et je suis allé voir quelques statistiques. Et le Canadien de Montréal est la deuxième équipe la plus punie en pénalités mineures dans la Ligue nationale de hockey. C'est 120 pénalités mineurs qu'on a obtenus depuis le début de la saison. Les Browns en ont 129. Fait que donc, si tu te poses la question pourquoi offensivement on a de la difficulté, c'est parce que tu n'es jamais dans le momentum de garder ton équipe à 5 contre 5 dans la mouvance. Tu es rarement en avantage numérique parce que tu es toujours en désavantage numérique. Tu sais, moi je regarde la situation, puis j'écoutais Dave ton émission hier avec Antoine où lui disait c'est rendu inacceptable le nombre de pénalités. Je regarde comment on se comporte avec Kirby Dach, puis je comprends qu'il est jeune. Puis vous vous en souvenez, je vous ai dit, tu sais, il faut faire attention, il est jeune. Sauf que les passes droits qu'on donne à Kirby Dach, je me demande si ça va influencer sur les autres. Quand tu vois un gars qui a plein de passes droits, tu te dis, moi, personnellement, aussitôt je vais me faire prendre à quelque chose, j'ai l'impression que moi, je vais me faire pénaliser. Fait que donc, là, il y a un passe droit et je pense que ça doit arrêter un moment donné. Si le jeune veut être en mesure de comprendre l'importance de ses gestes, il faut qu'il y ait des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, c'est juste à dire, tu vas commencer le match sur le quatrième trio.
Parce que pour toi, ce serait quoi, mettons, une bonne conséquence? Quand tu dis passe droit,
c'est... Estrades.
OK, à ce point-là.
Ouais. Non, mais écoute, son jeu est désorganisé. Ouais. L'intensité n'est pas au bon niveau, prend de mauvaises pénalités. T'sais, c'est des pénalités de bâton. Et c'est pas des pénalités où il a fait un assaut, où il a frappé un gars violemment. Non, c'est pas ça. C'est des pénalités de bâton. Malgré que Martin Saint-Louis, après le match, a dit non, c'était des pénalités d'intensité.
Mais je pense que Martin défend ses joueurs aussi présentement, puis il prend beaucoup de pression pour les gars, mais je suis tellement d'accord avec toi. C'est que même pour le joueur, ça devient inconfortable. Parce que je pense que Kirby Dach a pas de solution présentement. Fait que de l'envoyer dans les gradins, peut-être regarder un match ou deux, c'est peut-être la chose à faire. Puis, tu sais, il faut comprendre une chose sur Kirby Dach, là. C'est pas s'acharner sur le kid qui a 23 ans. C'est que moi, je comprends une chose, c'est que on a échangé, puis on a donné beaucoup pour avoir Kirby Dach. Puis pour Kent Hughes, pas pour Martin Saint-Louis. Pour Kent Hughes, c'est important que ce joueur-là se développe.
Tu penses que Kent Hughes dit à Martin Saint-Louis, garde-moi ça, s'il vous plaît?
C'est certain.
OK, ben là, je pense que...
Mais c'est certain, parce que Martin ne le ferait pas jouer. Là, présentement, le gars, il a deux buts depuis le début de l'année.
Ah, c'est sûr, c'est pas facile. Un prochain match pour le Canadien, c'est face aux Sabres de Buffalo. Combien de fois j'ai dit ça cette année? Ah, c'est sûr, c'est pas facile. Contre les Sabres de Buffalo, ça se passe mardi du côté du Centre Bell. Les Sénateurs d'Ottawa, victoire de 3-2 contre les Penguins de Pittsburgh. Ça s'est passé en prolongation. C'est Brady Tkachuk, que le Canadien aurait pu repêcher, qui a marqué en avantage numérique. Hey, les Sénateurs d'Ottawa, écoutez ça, sont présentement la dernière équipe repêchée ayant accès aux séries de fin de saison avec un total de 32 points d'avance des Flyers de Philadelphie, un point derrière Tampa Bay qui en a 34. Troisième victoire de suite pour les Sénateurs à leurs 10 derniers matchs, 7 victoires, 2 défaites et 1 défaite en bris d'égalité. Ça va bien, Ottawa, comparativement pas très loin.